Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous qui est proposé par dans les salons Albert Mola, par la librairie Mola, et également les éditions Confluence, ainsi que le musée d'Aquitaine, puisque c'est un double événement qui nous réunit ici. D'une part, l'apparition d'œuvres photographiques, de ce gros volume que vous pouvez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, en présentation. Un photographique de Félix Arnaudin. Nous reviendrons sur, pour ceux qui ne le savent pas, sur qui était Félix Arnaudin, sa vie, son œuvre et ses photographies. Et également la magnifique exposition du musée d'Aquitaine, avec un titre absolument sublime et qui résume d'une certaine manière parfaitement qui était Félix Arnaudin, le guetteur mélancolique. En compagnie, alors je vais commencer par ma droite, Catherine Vigneron, qui est iconographe, qui a mis en scène, d'une certaine manière, cette exposition, mais surtout qui a réussi à retrouver, grâce à des techniques dont elle nous parlera peut-être tout à l'heure, l'extrême délicatesse du toucher iconographique de ces photos, des photos qui datent de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, et qui lui a permis de finalement, on peut le dire véritablement, de les voir sous un jour nouveau, avec peut-être la plus grande fidélité qui n'ait jamais été donnée l'occasion de pouvoir exposer l'œuvre photographique de ce génie, finalement, de la photo qui s'ignorait, qui était Félix Arnaudin. Guy Latry, alors Guy Latry est professeur, il a été professeur d'Occident très très longtemps, il est très connu, il est écrivain, mais surtout, peut le dire, sans lui, l'ensemble de cette œuvre prométhéenne, qui est l'ensemble de l'exhumation des œuvres de Félix Arnaudin, n'aurait pas pu se faire, ni voir le jour, car il est, pour de multiples raisons qu'il expliquera peut-être tout à l'heure, certainement la personne qui connaît le mieux et les Landes dans lesquelles Félix Arnaudin a vécu, et Félix Arnaudin, et également le compagnonnage qui fait que parfois on se demande s'il ne l'a pas véritablement vu et connu et presque touché. Et enfin, Éric Audinet est l'éditeur de l'ensemble de ses œuvres et donc l'éditeur de ce dernier volume qui est d'une certaine façon l'accomplissement. Alors je ne sais pas si ce sera le dernier, ça pourrait l'être. Ça s'établirait dans une logique finalement d'édition, mais il n'est pas du tout certain que Éric Audinet veuille rester à cela. Alors, je voudrais commencer par Guy Latry. Alors Guy, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation, premièrement, qui était Félix Arnaudin, si l'on peut, et ensuite, qu'est-ce qui a amené un jour à retrouver ce trésor méconnu qui était ces 2000, je crois, clichés d'une lande qui a disparu et d'une lande qui en partie a été recréée.
Alors, oui, vaste programme. D'abord, petite correction sur ce que tu as dit. Bon, effectivement, j'ai passé 20 ans de ma vie sur l'œuvre de Félix Arnaudin, j'ai consacré ma thèse, etc. Mais je suis un des jalons d'une longue série de gens qui ont consacré leur énergie à faire connaître Félix Arnaudin après sa mort. A commencé en 1928 par les éditeurs du Temps des Échasses, dans les années 60 par les éditeurs de la première édition des contes, des chansons et des proverbes. Et
on peut remonter également au cousin d'Arnaudin qui lui-même a reçu un legs de 3000 francs or voilà. Pour faire apparaître voilà. Le premier livre. Mais enfin bon, je comprends donc, que cette modestie
cet honneur beaucoup. Félix Arnaudin vit parce que tous les 20 ans, il y a quelques fadas qui se remettent au travail. Et donc on espère que dans 20 ans, il y en aura d'autres. Bon. Ce qui est agréable, c'est que à chaque fois, on progresse quand même. Hein, c'est-à-dire que là, avec les œuvres complètes, on avait fait un grand pas. Et là, en ce qui concerne la photographie, on a vraiment une redécouverte de l'œuvre photographique d'Arnaudin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photos qu'on n'avait jamais vues. Et il y a toutes les photos qu'on avait déjà vues, on ne les avait jamais vues comme ça. Il y a une qualité absolument extraordinaire. Et je viens de voir l'exposition là, encore tout à l'heure et c'est vraiment une splendeur. Alors Félix Arnaudin, c'est un monsieur sans histoire, c'est un héritier, enfin c'est un petit rentier landais de la Bouère. À l'époque où le destin des petits rentiers landais était de s'enrichir avec la plantation des pins et qui, lui, a refusé de rentrer dans cette dynamique, dans ce bouleversement économique et social, dont il a vu surtout les défauts et qu'il a perçu comme une espèce de catastrophe. Et donc, à la faveur d'une crise familiale en particulier, en 1874, bon, il est tombé amoureux de la bonne. Je veux dire que le fils de la famille couche avec la bonne, ça c'est pas très grave, mais qu'il veuille l'épouser, ça ne va plus du tout. Donc, surtout qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. Donc ça fait un drame avec sa mère, Marie a été chassée, et c'est là que Arnaudin, comment dire, mis vraiment devant son échec, enfin, il n'avait pas réussi à rentrer dans une vie professionnelle, sinon en aidant un petit peu son père, qui travaillait à la gare de la Bouère comme commissionnaire des forges de Pontinx, a renversé d'une certaine manière, et donc cet échec familial, enfin social, a renversé cet échec en se consacrant à une œuvre, hein, en ayant l'idée, au fond, d'être le témoin, le passeur, le dernier à pouvoir témoigner donc de la lande qui est en train de disparaître, hein, c'est-à-dire à la fois dans ses paysages et dans ses structures, dans sa sociabilité. Et donc, il va à ce moment-là, d'une part, commencer son travail de collectage de la parole orale, des contes, des chansons, etc. Il va en même temps reprendre quelque chose qu'il avait commencé dans les années 60, à savoir un journal intime. Hein, journal intime qui, en fait, est une description de son parcours incessant de la lande, et parcours incessant de la lande qui est essentiellement destiné à faire des repérages pour la photographie, hein, ou alors des randonnées nocturnes pour aller retrouver Marie là où elle est employée. Voilà, à Sabre, donc, à travers la lande, les fondrières, les ruisseaux, etc.
Mais bon, mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait pas, finalement, c'est à l'origine, ce qui procède de quoi. Parce qu'à l'origine, et jusqu'à la fin de sa vie, Arnaudin avait le vaste projet d'un livre qu'il n'a jamais pu écrire.
Oui.
Alors, et on ne sait pas si, en fait, les photos sont venues en appui d'un livre qu'il ne pouvait pas écrire, ou si elles devaient servir à écrire, à fixer,
oui,
ce qu'il voulait écrire.
Alors, les photos, c'est très clairement, et c'est très émouvant dans l'exposition, les photos, les premiers tirages de 1874, c'est photographier les endroits où il allait avec Marie. C'est vraiment un geste d'amour, quoi, de témoignage de cet amour. Mais j'ai oublié un détail qui est essentiel, c'est que à un moment donné, donc à l'adolescence, on l'a envoyé à Mont-de-Marsan au lycée. On l'a envoyé au lycée, et là, il s'est découvert en fait une vocation intellectuelle, bon, qui n'était pas évidente, je veux dire, hein, qui n'était pas partagée par ses camarades de lycée. Il s'est découvert une frustration parce qu'on l'a mis dans une section moderne et donc il n'a pas eu accès au latin, au grec, hein, donc aux études supérieures. Et il est rentré donc dans une lande qui était en pleine déstructuration, restructuration, avec l'idée de vraiment, une fureur autodidacte, hein, de se donner la culture qu'on lui a refusée. Et d'employer cette culture, hein, c'est-à-dire cette formation linguistique, par exemple, historique, pour témoigner donc de la lande qui est en train de disparaître. Et donc c'est vraiment dès le départ qu'il y a, même confusément, une espèce de projet global, hein, qui devrait effectivement aboutir à un livre et qui en réalité a abouti à des milliers de fiches, à deux petits. Deux livres et demi, si vous voulez, un recueil de contes en 1887, un recueil de chansons en 1912 et un petit recueil en 1920. Bon, c'est-à-dire peu de choses par rapport à ce qu'il a fait, mais à l'arrivée, une œuvre énorme, hein, qui n'est apparue évidemment que quand on a réussi à faire des œuvres complètes.
Oui, puisque finalement, on s'aperçoit, après la mort de Félix Arnaudin, qu'il a conservé exactement, je crois, qu'il a fait exactement 2426 photographies.
Voilà, alors les photographies.
Essentiellement sur plaques de verre.
Oui. Et alors,
davantage.
Davantage.
Moins 3300 plaques de verre, ce qui est colossal.
Et
Ce qui vous donne l'occasion de nous tourner vers, de nous vers vous, puisque vous avez été la cheville ouvrière de ce qui a été la façon de revoir cette langue et de remettre en perspective les photos qu'il avait pu effectuer. Oui. Alors vous dites, il y en avait combien, vous dites 3000?
Il y a au moins 3300 négatifs sur verre, donc répertoriés sur 46 années de production. Donc si on compare avec les gens comme par exemple Adjet, qui a travaillé une dizaine d'années plus tard à Paris.
Adjet était un photographe originaire de Libourne, qui était peintre à l'origine, qui voulait être peintre, qui était un peintre contrarié. Voilà. Ce qui d'ailleurs ramène à Félix Arnaudin, qui est d'une certaine manière un écrivain contrarié, et qui donc s'est mis à photographier un Paris qui allait disparaître.
Alors par exemple, Adjet, sa production est double, elle est autour de 7000 et quelques plaques. Donc on voit quand même que Félix, qui lui s'est consacré que temporairement, enfin par de façon permanente à la photographie, a quand même une production assez colossale. Donc effectivement, le musée d'Aquitaine conserve l'ensemble de ces négatifs sur verre, et ainsi que des tirages originaux. Donc il y en a plus de 2000. Malheureusement, ils n'ont pas tous très bien évolué dans le temps, hein, parce qu'il y a eu des phases différentes au niveau de la photographie. Dans un premier temps, il travaillait de façon très artisanale, en découpant lui-même ses plaques, en fabriquant ses émulsions, et ainsi de suite. Puis dans les années 80, c'est devenu, il y a eu un développement de la photographie amateur, avec beaucoup de produits prêts à l'emploi. Et donc, de temps en temps, il a malheureusement, au niveau des tirages, utilisé des papiers qui n'ont pas eu de durée dans le temps, hein, ce qui fait que beaucoup d'images se sont affaiblies et qu'on ne peut pas en avoir la lecture aujourd'hui.
C'est qu'il faut préciser également, pour qu'on puisse comprendre l'abondance de l'œuvre, qu'il faisait très souvent, vous m'interrompez si je me trompe, très souvent la même photo d'un même lieu ou d'une même scène.
Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où il s'emparait d'un sujet, il allait déjà tourner autour de ce même sujet, il retournait à des périodes différentes, été, automne, hiver, et ainsi de suite, faire poser des gens dans ses environnements. Et si tu dis donc sur un sujet, on a toujours un ensemble d'images renseignant ce sujet. Tout à fait.
Alors, qu'avez-vous fait, qui a trouvé, alors je ne sais pas si c'est Eric, Guy ou vous-même, qui a trouvé cette phrase dans l'Arnaudin, qui a un peu été le code secret pour donner cette texture inouïe de cette exposition. Je ne sais pas si vous êtes allé la voir, mais je vous encourage vivement à aller la voir, parce qu'elle est absolument extraordinaire. Cette douceur qui existe, et ce grain qui existe, que vous avez retrouvé, comment avez-vous fait?
Le moelleux. La correspondance. Dans la correspondance avec les photographes.
Exactement. Alors, c'est dans la correspondance, et c'est précisément quand il corrige des épreuves de son ouvrage dédié aux chansons populaires de la langue.
C'est-à-dire le seul ouvrage où il a publié des photos.
Où il a publié 5 images, oui. Dont 4 des grandes scènes des travaux saisonniers, qu'effectivement il commente les bons à tirer en expliquant qu'il veut plus de moelleux, et il explique un petit peu ce qu'il attend lui de tirage, ou du moins de cette reproduction. Donc on s'est un petit peu basé sur cette photographie. Puis autre chose aussi, je veux dire, aujourd'hui nous on travaille de façon numérique, on a des écrans où on agrandit énormément toutes ces images, et il y a un tel bonheur de les voir en grand, il y a un tel énormément de détails qu'on ne pouvait pas se priver de tout ça, et qu'un tirage relativement lumineux et doux faisait apparaître le moindre détail.
Et ce travail que vous avez exécuté pour le musée d'Aquitaine, on le retrouve en partie, ou en totalité d'ailleurs, enfin un extrait plus exactement, une sélection, dans le livre qui est présenté.
Puisque... Oui, juste peut-être une toute petite précision par rapport à ça, c'est que quand on a publié il y a maintenant...
Une vingtaine d'années,
puisque c'était l'Imagier de la Grande Langue qui est le premier livre un peu... Et à l'époque, les tirages qui avaient été faits donc par un photographe bordelais, Alain Bégri, qui avait fait des tirages très... L'idée, c'était de prendre les plaques et d'être au plus près de ce que nous donnaient à l'époque les plaques. Ce qui fait que pour ceux qui connaissent ce livre, on était avec des images très contrastées, qui d'ailleurs aujourd'hui produisent des réactions d'un certain nombre de gens par rapport à l'exposition, par rapport au livre, en disant on est dans des choses beaucoup plus claires. Alors évidemment, comme toujours, les tirages, à quelque époque qu'ils soient, c'est des interprétations. On peut dire d'une certaine manière qu'il n'existe pas, il n'y a pas d'originaux, il y a des interprétations. Et que ce qu'avait fait Alain Bégri à l'époque, qui était, je trouve, magnifique, enfin, cohérent dans son projet, était... par rapport à ce qui a été fait là, ce que le musée a fait, et on a effectivement travaillé à partir de la numérisation du musée, on s'aperçoit qu'on a énormément de détails, de choses dans le fond des images. Et au moment où je voyais les gens à l'exposition regarder les images, c'était très étonnant de les voir s'approcher des images en plus parce qu'elle était grande, et ce qu'on a fait il y a 20 ans, c'était l'idée au format à tel, c'est-à-dire soit des 9-12, la période 74-80, où Arnaudin travaille avec des petites plaques, et en plus qui correspondent à ce que disait Guy tout à l'heure sur le rapport à Marie et le rapport au désert, et ensuite il passe à des 13-18, qui sont déjà un format différent. Et donc on a vraiment, dans la manière dont le travail a été fait, une autre façon d'envisager et de... je crois que c'est un point essentiel parce que ça donne aujourd'hui une autre manière de voir Arnaudin. Évidemment, les tirages, on n'a jamais eu de grand tirage. Arnaudin s'émerveille dans sa correspondance quand on lui envoie, je crois que c'était sur les...
Une reproduction.
C'est les fileuses.
Oui, tout à fait.
Et il est complètement admiratif, il écrit à son correspondant, mais jamais je n'ai vu mes propres images comme ça. Et j'imagine aujourd'hui Arnaudin venant ou regardant ce livre ou allant à l'exposition, évidemment, il serait totalement sidéré de ce que... sachant que lui ne voyait rien de tout ça. Il avait ses plaques et puis ses tout petits tirages qui sont aussi montrés d'ailleurs et dans le livre et au musée, par effet évidemment de contraste.
Alors, est-ce qu'on pourrait parler de l'œuvre photographique d'Arnaudin? Qui veut répondre sur ce sujet qui est un sujet inhérent d'ailleurs à la question et au livre? C'est-à-dire qu'il y a au moins deux, on peut dire deux périodes. La période que vous avez brièvement située autour des amours contrariés qu'il a avec Marie, et donc avec cet espoir, enfin, comment dire, cette volonté extrêmement romantique, car au lycée, ce qu'on ne pouvait ajouter, c'est qu'il avait été passionné par les romantiques, et il voulait en fait devenir un poète romantique d'une certaine manière, mais cette vision romantique de la vie et de l'amour qui ne pouvait être véritablement admis, l'a poursuivi, et donc, vous semblez dire que pendant une certaine période, il a fixé les lieux secrets, les rendez-vous qu'il avait avec Marie, les paysages qu'il voyait avec Marie.
Oui.
Ça, c'est la première période. Et ensuite, il y a eu une seconde période. Je me trompe?
Oui. Ou oui, oui.
Alors, qui veut vous répondre?
Non, en tout cas, je crois que c'est comme ça que le livre a été construit. Et donc, il y a là aussi un choix, une interprétation qui a été faite. C'est de dire que, en gros, l'idée, c'est que si on a demandé à un historien de la photographie, qui est Michel Poivert, qui a fait une intervention importante dans le livre, pour resituer, parce que c'est aussi l'ambition de ce livre, ça, on pourra en parler à l'heure dans le lien entre la photographie et le reste de l'œuvre d'Arnaudin. Mais l'ambition de cette exposition et de ce livre, c'est de montrer que Arnaudin, en dehors d'être un extraordinaire témoin d'un monde en voie de disparition, ou même disparu, on pourra... Oui. C'est aussi...
Témoin ou réinventeur, excuse-moi.
Oui, on va le faire.
Témoin et réinventeur. Mais en tout cas, au même moment, à Paris, on confie à un photographe qui s'appelle Charles Marville, alors qu'on a à Paris déjà Haussmann, qui a, on peut dire, transformé, fait disparaître une ville sous une autre, on confie à Marville le fait de photographier ce qui apparaît dans la ville. Arnaudin fait exactement l'inverse, et si on essaie de s'en théoriser pour autant, mais essayer de comprendre le projet d'Arnaudin, on est d'un côté chez un photographe qui photographie les choses qui apparaissent, et de l'autre, chez un photographe qui photographie ce qui a disparu. Parce que quasiment tout ce que nous montre Arnaudin n'existe plus. Un certain nombre de choses très importantes, et notamment dans les grandes scènes qu'il va photographier dans les années 1800, entre 1890 et 1900, sont des mises en scène complètes, l'idée de tableau vivant, qui sont à la fois au plus près de ce qui était et qui sont en même temps l'histoire de quelque chose de disparu. Et c'est là où on s'aperçoit que chez Arnaudin, il y a à la fois cette extraordinaire dimension, cette rigueur scientifique et cette capacité d'inventer un monde.
Alors, ce qui est absolument prodigieux, et ce qui fait que, d'une certaine manière, la personnalité d'Arnaudin devient aussi passionnante que l'œuvre lui-même qu'il a créée. Parce que, sans le savoir, au fin fond des Landes, sans connaître personne, je crois qu'il est allé une seule fois à Paris acheter son premier appareil de photo.
Il est allé, comme tout le monde, à l'exposition de 1900.
Ouais. Oui. Deux ou trois fois, mais enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui avait une vie sociale européenne. Or, ce qui qui est absolument passionnant et ce qui m'apparaît totalement passionnant, c'est que Perdu au fin fond des Landes, il fait un travail que l'on va retrouver dans le monde entier, finalement, aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis, enfin aux États-Unis qui s'appellent encore, enfin qui vont s'appeler les États-Unis, mais qui n'ont pas la dimension qu'on leur connaît aujourd'hui. Et cousin, finalement, est très proche de photographes qui font en même temps ce travail magistral de photo, d'un des grands photographes de ce siècle, et en même temps d'ethnologue.
Oui. C'est ça qui est très compliqué, parce qu'en fait, soit il photographie des scènes de la vie vivante, enfin des gens vivants, et c'est vrai que quand il photographie un aérial avec les gens qui habitent dessus en 1880, au fond, l'aérial, il n'est pas très différent de ce qu'il était en 1860 ou même en 1840. Bon. Et à côté de ça, effectivement, il a un travail de reconstitution de scènes qui appartiennent au passé, hein, le fait de nourrir les bœufs, etc., par les estaoulis ou des choses comme ça, et où là, il fabrique, hein, mais comme Edward Curtis fabriquait des scènes indiennes en Amérique, exactement à la même époque, je veux dire. Hein, et on a fait les mêmes reproches. Je veux dire, tout ce qu'on a écrit sur Edward Curtis, à la fois donc, grand ethnologue, puis grand truqueur, finalement, grand metteur en scène, et aujourd'hui, on revient à dire qu'au fond, c'est plutôt bien. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient à la fois des inventeurs, des artistes, des gens qui composaient des tableaux avec des règles esthétiques, avec des... Bon. Mais qui, en même temps, les composaient sur la base d'un savoir ethnographique très précis. Hein. C'est-à-dire que les scènes que Arnaudin reconstitue ont une beaucoup plus grande rigueur que ce qu'on pouvait voir à l'époque sur tous les tourniquets de tous les bureaux de tabac, sur les cartes postales des Landes.
Hein. Notamment chez quelqu'un comme Bernet, voilà. Où on est vraiment entre l'anecdotique et l'essentiel.
Alors qu'on a l'impression de voir la même chose. Or, en réalité, je veux dire, ces tableaux, donc entièrement composés, dans une salle vide où on amène une charrette de matériel, où on installe les gens, les matériels, etc., où on enlève les tuiles du toit pour avoir de la lumière, sont le produit en fait d'une connaissance très précise de l'ancienne lande. Hein.
Qu'en pensez-vous
Je pense que Félix Arnaudin s'inscrit complètement dans un projet pédagogique. Et donc, c'est pour ça que ces images sont construites et qu'à chaque fois, il va décliner différents moments ou séquences dans chacune des images.
Pourquoi dites-vous pédagogique?
Mais parce que, je veux dire, si on prend, par exemple, la scène des lavandières, je veux dire, chaque geste est présent. C'est-à-dire qu'on va voir la jeune femme qui va lessiver, celle qui va battre le linge, celle qui va le rincer, celle qui va l'étendre, et ainsi de suite. Donc, vraiment, ce sont des séquences successives qu'il regroupe dans une même image. Voilà. Donc, dans un souci, forcément, de transmission de ces activités domestiques ou agricoles. Par contre, la petite différence avec Curtis, c'est que Curtis travaillait sur des ethnies qu'il ne connaissait pas, qu'il imaginait. Tandis que Félix Arnaudin, même s'il va composer ses images, il est dans un connu, quelque chose qui lui est très intime.
Il se rapprocherait peut-être d'un photographe allemand qui était son ex-contemporain et qui, lui, va fixer des scènes de la vie ouvrière de cette époque-là, de la fin du XIXe siècle.
Vous pensez à qui,
Pent?
Ah, je ne connais pas très bien, il faut que je me renseigne. Je ne peux pas répondre.
En même temps, il y a une espèce de folie artistique aussi. C'est-à-dire que quand il fait, je ne sais pas combien de prises des fileuses.
Hein,
oui. Je veux dire, on dirait Monet en train de peindre la cathédrale de Rouen. Oui, c'est-à-dire qu'il va déménager les chapeaux, les lins, modifier les trucs pour arriver à, au fond, l'idée de l'œuvre qu'il a dans la tête.
Tout à fait.
Y compris sur plusieurs années.
Oui, alors, tout à fait.
Parce qu'il y a une image qu'il met plusieurs années, parce qu'il y a un problème de saison, évidemment.
Bien sûr.
Donc, à chaque saison, il repaie les gens là, il ramène le matériel, il raconte pour l'image de Staulis, comment il y a toute une lettre retrouvée, publiée dans le livre, et je crois montrer aussi
dans l'exposition.
Et où il y a tous les détails de ce qu'il faut faire, donc effectivement, faire un tableau vivant, monter le projet, voir pourquoi ça va pas, refaire. Et c'est vrai que on s'est posé la question, pourquoi est-ce que Arnaudin, il aurait pu, et peut-être qu'il a vu, le cinéma est né quand il fait dans les années 10, 20. Or, on se rend compte, d'une certaine manière, comme le disait Catherine, que c'est dans la photographie qu'il se met à faire du cinéma. Et quand il fait, par exemple, effectivement, les lavandières, où chaque geste, mais les sarcleuses, c'est pareil, chaque geste raconte une étape, on a une sorte de concentré d'une scène dans la durée qui l'instantanéise
En même temps, ce qu'il oppose au cinéma, c'est qu'il a une obsession de neutraliser le mouvement.
Totalement.
Hein, c'est-à-dire, oui. C'est quand même...
Sauf les yeux des enfants et l'eau.
Ah, mais évidemment, les enfants, oui. On ne peut pas les empêcher, et l'eau, on ne peut pas l'empêcher de couler. Donc,
non seulement ça, mais...
Ce sont les seules choses qui bougent dans les photographies d'Arnaud.
Et non seulement ça, mais en plus, ce qui est inhérent à la personnalité et à l'œuvre d'Arnaud, c'est de retenir ce qui fuit, et surtout ne pas s'engager dans un présent qu'au fond il aborde d'une certaine manière. Alors je vous demandais à Eric Audinet comment ce livre se conçoit et s'agrège dans un travail monumental d'édition qui a commencé donc il y a plus de 20 ans comme vous l'avez dit et qui comporte maintenant je crois 10 volumes, c'est ça ?
9 volumes, plus celui-là, ça fait 10, et plus l'imagier de la Grande Lande qui en est l'origine, ça fait 11. Il y a 11. Alors, d'abord, peut-être une petite correction aussi par rapport à l'édition des œuvres complètes de Félix Arnaudin. C'est une coédition, édition Confluence et Parc naturel régional des Landes. Je vois François Lalanne là, qui est au bout, qui a été conservateur au parc et qui a été un peu du côté du parc, une des chevilles ouvrières du livre. Et aussi que quand on regarde sur 20 ans presque, ce que tu disais tout à l'heure, c'est une vingtaine de personnes qui, soit en responsabilité de chaque volume, soit dans un travail collectif qui a été fait, et Dieu sait si ça a été un vrai travail collectif, y compris dans les difficultés, dans les crises, que ça. Mais travailler 20 ans sur un sujet comme ça, et s'apercevoir a posteriori qu'on a publié donc 6 000, plus ces deux ouvrages photographiques. C'est vrai que c'est un projet éditorial qui, je pense, n'a pas beaucoup d'équivalent et qui n'a pu se faire que parce que évidemment, avec le soutien essentiel dans un projet comme celui-là, des collectivités qui se sont engagées dedans. Et je ne dis pas simplement ça pour parler des collectivités, mais c'est aussi parce que ça a créé une espèce de sentiment de solidarité entre beaucoup de gens, notamment avec tous ceux qui ont suivi depuis le début, c'est-à-dire il y a 20 ans, qui ont été les souscripteurs, qui grâce à eux, c'est grâce à eux un peu que les livres se sont faits, et tous ces gens-là, depuis 20 ans, suivent l'histoire. Donc, au fond, si on devait dire quelque chose, je pense que l'histoire de cette publication, c'est une histoire collective, et c'est aussi une histoire... Alors, j'allais dire une histoire landaise. C'est, les Landais se sont appropriés un projet qu'ils ont mené jusqu'à son terme dans ce travail éditorial. Mais pour répondre complètement à ta question, je pense que c'est pas un hasard si c'est 9 volumes, donc les contes, 2 volumes de chants, les proverbes, la correspondance, le journal et l'ensemble des textes historiques et littéraires, les deux dictionnaires, le volume dû notamment à Jacques Boismontier qui nous a quittés pendant l'édition. Le travail photographique, et surtout, je pense, celui qui sort maintenant, bon, évidemment, s'inscrit dans la logique, c'est tout ça forme un ensemble. Mais par rapport à ce qu'on disait des photographes, des références, on parlait de Jet, Marville, Curtis, mais on pourrait en citer d'autres, Robinson en Angleterre. On a vraiment en Allemagne.
Auguste Sander.
Sander, bien sûr, notamment pour la question des portraits dont on n'a pas parlé encore, mais qui sont toute la partie importante de la photographie. On a, quand on regarde ça, à la fois un sentiment évidemment très fort d'une appropriation par les Landais de ce travail, mais encore une fois, je pense qu'il y a, si on analyse l'œuvre par rapport à l'histoire de la photographie, on se rend compte qu'il y a un travail photographique absolument prodigieux. Et que ça fait partie, alors là, de l'aspect un peu militant de notre travail, je crois, c'est qu'on essaie les uns et les autres Bah de faire de telle sorte que dans le moins de temps possible, Arnaudin soit aussi montré dans d'autres régions, Arnaudin soit montré à Orsay, Arnaudin, et que surtout il s'inscrive dans l'histoire de la photographie. Parce qu'il y a aussi un point très important, c'est que Arnaudin n'existe pas en dehors des deux lieux qu'il possède les photos, c'est-à-dire d'une part le musée d'Aquitaine et d'autre part, pour un certain nombre d'entre eux, le parc. Donc il n'y a pas de marché Arnaudin. Les photographies d'Arnaudin ne sont pas valorisées, donc elles n'existent pas ailleurs, elles ne circulent pas, elles ne peuvent pas être vendues. Et évidemment, par rapport à la question de l'histoire de la photographie, ça pose un problème qui est un problème à la fois éditorial et un peu compliqué. D'ailleurs, je sais que ça fait partie des projets peut-être du musée, à un moment, de mettre sur le marché l'idée du tirage, de tirage d'Arnaudin.
C'est quelque chose qui est en réflexion. Effectivement, on s'interroge sur cette opportunité d'éditer quelques tirages et de les mettre en vente. Mais en revanche, d'édition contemporaine, oui, bien sûr. En revanche, certes, tous les tirages originaux, peut-être qu'il en existe quelques-uns dans les familles, dans les Landes, qu'on espère peut-être être informé à l'occasion de l'itinérance de l'exposition au Parc régional des Landes. Ensuite, elles ne circulent pas. Effectivement, elles sont dans les collections publiques. Donc, on ne peut pas intéresser non plus le milieu des galeries, ainsi de suite. Bon. En revanche, oui, les historiens de la photographie, on a commencé, on a rencontré Gilles Bourrat, qui, effectivement, découvre ce travail. Dans la mesure où il n'a pas été diffusé pendant de longues années, ça explique un petit peu aussi l'ignorance de ce milieu de la photographie. Parce que l'ouvrage qu'avait fait Eric, il a circulé, mais il n'est pas présent partout dans les lieux de photographie.
Est-ce que je peux ajouter un petit détail très français? Un autre blocage, si vous voulez. C'est-à-dire que Arnaudin est considéré comme un auteur régional, sinon régionaliste. Et il y a 20 ans, lorsqu'on a fait l'imagier de la Grande Lande, quelqu'un est allé au musée d'Orsay présenter le livre. On lui a répondu, mais monsieur, ça n'a qu'un intérêt régional. Hein. C'est-à-dire qu'en France, État centralisé, tout ce qui est culturellement excentré n'a pas d'existence, n'a pas de valeur. Et dans les histoires de la photographie française, effectivement, il n'y a pas de place pour Arnaudin.
On peut l'espérer. Que l'histoire est en cours.
Alors, on travaille à ça.
Oui, tout à fait.
Voilà. On pourrait ajouter une autre difficulté qui est celle qu'Arnaudin finalement a ajoutée au mystère de sa vie et de ce qu'il a voulu finalement léguer. C'est-à-dire qu'il avait une telle horreur de tout ce qui pouvait être matériel qu'il n'a jamais fait commerce de ses œuvres. Il n'a jamais fait, par exemple, de photos, alors qu'il a fait des portraits de ses contemporains, peut-être pour s'amuser, enfin, j'en sais rien,
mais il ne
les a jamais
voulu vendre.
Il ne les a jamais vendus.
Il a aussi fait beaucoup de photos de groupes ou de photos d'individus, de gens, par exemple, qui venaient demander des chansons ou des contes. Il lui disait, mais monsieur Arnaudin, vous faites des photos, vous pourriez me prendre en photo, parce que les gens ont envie d'être photographiés. Donc il a quand même donné un certain nombre de photos. Il y a un certain nombre de photos qui doivent circuler dans la nature. Oui. Quoi. Parce qu'il faut bien... Alors, j'ai été frappé tout à l'heure dans l'exposition, il y a un certain nombre de photos qui sont marquées deux hommes ou deux femmes, vous voyez. Or, en réalité, on met ça parce qu'on a perdu les noms.
Complètement.
Parce qu'on a perdu les papiers. Ils ne photographient que des individus. Ils photographient pas des types comme les faiseurs de cartes postales, je veux dire. Hein. Il y a un texte de Colette absolument admirable où elle est... dans le golfe du Morbihan, dans un bistrot de pêcheurs, voilà. Et donc les pêcheurs s'apprêtent à partir, et puis ils partent, et puis il y en a un qui reste, mais qui est le plus beau, qui est superbe, un type, là, vraiment, l'archétype du pêcheur. Et elle lui dit, mais pourquoi vous partez pas? Et l'autre lui répond, je suis type local pour les photographes. Voilà. Arnaudin ne fait pas ça. Arnaudin photographie des individus, et c'est des individus vivants, hein. C'est-à-dire qu'il photographie la Lande d'il y a 50 ans, certes, mais en même temps, les gens qu'il photographie sont tout à fait vivants.
Il y a 100 ans.
Voilà. Et même, ils sont tellement vivants qu'un certain nombre de ces modèles, il va les voir mourir en 14. Hein. Un de ses derniers textes, c'est un texte sur l'horreur de la guerre de 14, hein, ça s'appelle Un vœu, c'est sûr. Alors, c'est un texte qu'on a souvent traité par le mépris, parce qu'il demande à ce qu'on fasse des monuments aux morts dans toutes les communes, hein, une simple plaque où on met le nom des gens. En réalité, c'est un cri contre l'horreur, avec, je crois, une des premières fois où on cite dans un imprimé des lettres de soldats, une lettre de soldat écrivant à sa mère et disant son désarroi, hein, son désespoir. Et ce désespoir, c'est aussi celui d'Arnaudin, parce que non seulement il a vu mourir un monde, mais là, en plus, il voit mourir les hommes.
Hein. Guy, je voudrais également qu'on puisse évoquer, enfin, on pourrait en parler des heures, mais qu'on puisse évoquer quelque chose qui me paraît fondamental dans l'histoire d'Arnaudin, c'est comment, finalement, il crée un univers, une immensité, dans un lieu qui est finalement extrêmement circonscrit, c'est-à-dire c'est un petit triangle, si on
oui,
parle à phrase émancée.
Mais il est extrêmement connecté, c'est-à-dire qu'il est abonné à, mais je crois, plusieurs dizaines de revues, toutes les revues ethnographiques, etc., bon, toutes les revues photographiques.
Certes, mais les lieux géographiques.
À l'époque, et je veux dire, vous écrivez à La Bouère tel jour, le lendemain, la lettre est à Paris. Le type vous répond et vous l'avez le surlendemain. Et le type qui vous répond, ça peut être le président de la Société française de photographie. C'est comme si, je veux dire, un jeune ethnologue avait écrit à Lévi-Strauss qui répondait le lendemain. Aujourd'hui, c'est plus possible. D'ailleurs, la poste met beaucoup plus de temps que ça. Donc, il est à la fois isolé, il est tout seul, et il est tout seul, comment dire, marginal par rapport à la population qui l'entoure, si vous voulez, même si on tolère un peu sa folie douce, hein. Et puis, de toute façon, ils rémunèrent ces modèles. Hein, donc, ils ne perdent pas leur journée. Quand il fait patauger les dames dans le guet là, pour prendre des photos...
Ah, c'est elle, là
que tu l'aimes. Elles sont rémunérées. Oui, parce qu'il y a un aspect érotique. En fait, hein. Voilà. Mais il est très connecté avec le reste du monde. Et
Mais est-ce qu'on pourrait situer la géographie oui. de ces photos ? Parce que c'est ça que je trouve également intéressant.
Je pense que ce point est très important, parce que d'abord, c'est aussi la construction, quand on essaie de voir comment est-ce qu'on va montrer les images, que ce soit dans le cadre d'une exposition ou d'un livre, il faut quand même réfléchir un peu à ces questions-là, et on dit, c'est quoi l'univers d'Arnaudin ? Alors, l'univers d'Arnaudin, c'est une maison où il vit seul, avec Marie, qui est une petite maison, vous l'avez sans doute beaucoup d'entre vous vu, vous allez à La Bouère, c'est une petite maison, aujourd'hui centre de photographie d'ailleurs. Et puis autour, il y a comme partout dans les Landes, il y a un aérial, un ensemble d'habitations où la vie sociale se fabrique, se construit, s'entretient jour après jour. Vous sortez, vous avez le village, et puis après, vous avez ces fameuses étendues. On est encore dans une, même si c'est justement en train de se transformer. Et c'est pour ça que la question de cette fameuse loi de 1857, on ne va pas en parler en détail, mais qui a pour effet, en gros, de faire comme un monde disparaît sous un autre, avec un horizon qui disparaît, etc. etc. Pour ça, beaucoup connaissent cette histoire. Mais au fond, ces espèces de cercles, François Monnier en parle dans son intervention, mais ces cercles concentriques qui vont tous vers le désert et vers le vide. Parce qu'il y a quand même ça, on est au milieu, on est dans une maison, dans de la sociabilité, et puis autour, on est dans le vide, on est dans ce qui disparaît, on est dans cette fameuse histoire de l'abord, je ne sais jamais si on dit Yanao ou Yanao, dont Arnaudin dit dans un de ses textes que c'est cette borde qu'il a voulu photographier qui est justement dans le désert, où sont toutes les bordes, et qu'il apprend la photographie, dit-il, pour aller photographier cette borde, et que le jour où il a enfin réussi à apprendre l'apprentissage, qu'il faut imaginer évidemment tellement différent de ce que c'est qu'aujourd'hui que faire de la photographie, et bien le jour où il arrive, la borde est tombée et il ne peut pas faire la photographie. Donc l'histoire d'Arnaudin, le rapport d'Arnaudin à la photographie, commence sur l'histoire d'une disparition. Et il se trouve, bon, je ne veux pas faire de la psychanalyse de cuisine, mais il se trouve aussi que c'est la disparition, en tout cas pendant un moment physique, de Marie, qui est aussi, je pense, à l'origine de ce travail photographique. Oui, oui. Donc ces cercles concentriques, ils vont à peu près sur en gros 60 km, ce qu'il peut faire en vélo.
Voilà, c'est le vélo qui est très longtemps.
Qui lui donne. Parce ouais. qu'il est allé ailleurs, mais ailleurs, il décide. Il veut pas aller. Il va à Bordeaux, il photographie pas, ça l'intéresse pas. Il ne photographie que ce qui lui permet, que ce qu'il peut. C'est-à-dire sauf que la mer, étrangement. Voilà.
Il n'y a pas le plus loin où il va à l'est, c'est peut-être Argelouse, peut-être.
Oui.
Hein oui. Il va
à peu près. Hein. Ouais. Au sud, il ne va pas dans le Nord Saint. C'est-à-dire, il ne dépasse pas Sable finalement.
Il va jusqu'à Onès.
Onès. Ouais. Onès. Il ne va jamais sur la plage.
Mais parce qu'il a, alors derrière son projet, il a l'idée d'un pays. Alors ce qu'il invente, par contre, c'est ce pays qui n'a pas de nom et qu'il appelle la Grande Lande. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a l'idée que par mon activité de chercheur, de photographe, etc., je matérialise un pays qui n'existe pas sur la carte et que je fais exister comme une unité qui est la Grande Lande. Et donc, les contes de la Grande Lande, les chansons de la Grande Lande, les choses de la, oui, de la Grande Lande.
C'est un projet folklorien avant Faulkner.
Voilà, c'est un...
Ou Gabriel García Márquez, c'est Gabriel García Márquez, mais c'est ce qui nous amène très loin. Alors je vais vous poser également une question. Vous disiez, vous souhaitiez tout à l'heure, et vous émettez le souhait tout au moins, que Arnaudin, ce qu'il mériterait, soit reconnu comme l'un des grands noms de la photographie. Vous le situeriez, vous le compareriez, vous le situeriez dans, à quelle place ?
Ben, certainement dans son approche par rapport au paysage, qui a été essentielle, et qui peut être en contrepoint avec tout le mouvement pictorialisme, justement. Parce que lui, il va toujours rester dans une même optique, il va être une photographie nette, avec une profondeur de champ importante et beaucoup de détails. Et il va, quelle que soit l'évolution, quelle que soit la littérature qu'il a pu lire par rapport à la photographie, toujours garder cette même orientation. Et je pense que ce serait intéressant, effectivement, de développer cet aspect par rapport justement à la photographie de cette époque-là, en contrepoint peut-être à d'autres photographes. Mais je pense, oui, que petit à petit, comme je le dis, il est en train de faire son chemin et qu'on va intéresser différents critiques, historiens de la photographie et que, bon, d'eux-mêmes, ils vont lui permettre d'aller au-delà. Quelque chose aussi important dans sa première démarche, effectivement, dès 1874, quand il commence à photographier des paysages autour de la maison familiale, du Monge, il s'essaie ce qu'il appelle des panoramas. C'est quand même assez exceptionnel à l'époque. Il prend son pied photographique et il va, comme ça, en réorientant, faisant tourner son l'appareil photo sur l'axe du pied, donner à voir tout l'environnement de ces différentes landes, le Pradéou, et ainsi de suite. Et c'est quand même, à l'époque, une démarche qui est déjà conceptuelle, qui est assez exceptionnelle. Et donc, dans les deux premières années, il va réaliser à peu près plus d'une dizaine de panoramas de ce type. Et en partageant, bien sûr, déjà, d'emblée, dès les premières photos, ses photos en deux plans, c'est-à-dire il donne exactement la même importance au ciel et à la terre. Donc, il trace une ligne d'horizon sur le dépoli de sa chambre photographique et il s'y conforme à chaque image. Donc, c'est assez exceptionnel.
Surtout, dans ce que vient de dire Catherine, c'est vrai que quand on regarde bien ces photographies, et pas simplement les paysages, parce qu'il se trouve qu'il reproduit la même idée dans les portraits, c'est la dimension conceptuelle. On a, pas par hasard, dans ce livre, donné des citations de quelques artistes du Land Art. C'est pas pour artificiellement faire un lien entre un photographe de la fin du 19e et ce qui a pu se faire dans les années 50-60 en France, mais parce qu'il y a vraiment... Arnaudin a une idée, non pas simplement des sujets, mais de la construction mentale qu'est une photographie. Et ce découpage, par exemple, de l'image en deux, avec ce bas très détaillé qui est moitié-moitié ou légèrement deux tiers, un tiers, et ces ciels volontairement très vides, on le retrouve aussi quand on regarde la manière dont il fait ses portraits, et notamment... Je pense à toute une série assez étonnante, parce que ça, c'était Catherine, je crois, qui avait découvert ça. C'est qu'il y a une série de portraits. On se dit, tiens, bon, ils sont faits au même endroit, ils sont faits sur la même chaise, mais ils sont faits le même jour. Et pourquoi est-ce qu'ils sont faits le même jour, a priori ? C'est qu'il y a un tout petit détail qui se trouve au pied, vous le verrez en le regardant dans l'expo ou dans le livre. Et ce tout petit détail, qui n'est pas un hasard d'ailleurs quand on sait la détestation d'Arnaudin, non pas des grands pins, mais des pins qui sont plantés. C'est une petite feuille de chêne qui se trouve au pied de chacun des quatre personnages et qui donne d'un seul coup à l'ensemble de ces images un vrai projet, d'autant qu'il découpe l'image exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un sol sur lequel est posée la chaise qui est très détaillée, et derrière on a un mur plus blanc possible, et entre les deux, les petits moellons qui se trouvent au bas des maisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que c'est un hasard. Il y a une volonté chez Arnaudin de construire une image mentale du monde sur lequel on pourrait évidemment beaucoup parler, mais qui est exactement l'inverse des projets folkloristes qu'on peut trouver chez Bernet, tout ça où il s'agit de... Non, là il y a une idée.
Folklorique, oui.
Et avec d'ailleurs un point très important, c'est que les bergers sont... on a ce fond, un bas, un haut, blanc et détaillé. Et on a des personnages qui viennent, qui passent entre les deux, entre la partie basse et la partie haute, qu'on retrouve dans l'ensemble des portraits, et qui donne, alors là on s'en rend compte quand on l'analyse un peu, au bout d'un moment effectivement, Arnaudin est très marqué. On ne peut pas confondre une image d'Arnaudin, je pense, avec d'autres images, y compris sur le même territoire.
Je vais vous poser une dernière question avant. Est-ce que, Guy, vous pensez qu'Arnaudin a souffert véritablement de l'impression qu'il donnait, puisqu'on le surnommait le pec de la Grande Lande, le fou? Enfin, le simplet, même, plus exactement, de Arnaudin. Est-ce que vous pensez qu'il a souffert de ça? Est-ce que ça a corrélé un peu son œuvre?
Oui, moi, je crois qu'il y a suffisamment de notes dans ses papiers où on sent bien qu'il regrette de ne pas avoir une reconnaissance locale ou régionale. Bon, même si il a, dans le cercle de ses familiers, au fond, des gens qui comprennent son travail. Hein, et... je pense à certaines conteuses, par exemple, qui comprennent très bien ce qu'il fait et qui lui trouvent d'autres conteurs. Bon, il a des correspondants. Mais effectivement, oui. Ceci dit, je pense qu'il a quand même, au bout du compte, réalisé, laissé suffisamment de choses pour qu'on puisse plus tard s'apercevoir qu'il avait fait une œuvre, même si lui-même n'a pas pu la réaliser. Mais en même temps, il était tellement, il avait une si haute idée de cette œuvre que il ne l'aurait jamais probablement finie. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps des choses. D'autant que c'est une œuvre complexe. D'ailleurs, il y a tout un aspect qu'on a laissé de côté, mais qui, pour moi, est tout à fait fondamental, c'est que ces landes qu'il prend en photographie, il en parle, il écrit aussi. Et il écrit des textes absolument magnifiques, à la fois dans son journal et dans Choses de l'ancienne lande. Choses de l'ancienne lande, l'essentiel, c'est un panoramique autour de la lande, bon, où on mêle l'histoire, le paysage, etc. Et avec pour fond, autrement, une espèce de vertige et quelquefois d'extase devant ce vide. Parce qu'il dit à un moment... Il y a dans le journal, il y a des choses tout à fait étonnantes. Enfin, il est la nuit dehors... il y a un ciel étoilé, etc. Il tombe à genoux, quoi, devant la beauté du monde. Hein. Donc, il a eu aussi des satisfactions très fortes dans sa solitude.
Très solitaire et très fort.
Si vous avez aimé l'histoire de Félix Arnaudin, je vous recommande un film qui s'appelle « À la recherche de Viviane Mayer ».
Ah oui, merci, si vous l'avez vu.
C'est une nounou américaine des années 50 qui a fait des dizaines de milliers de clichés, fait très peu de tirages parce que ça coûtait cher pour une nounou, et qui a fait des tirages elle-même qui sont de médiocre qualité parce qu'elle manque d'expérience. Et évidemment, comme disait Catherine Digneron, les historiens de la photographie américaine rechignent à en faire des expositions et à la classer dans les auteurs parce qu'elle n'est pas sur le marché.
Oui,
bien, écoutez, merci clap, beaucoup. Clap, merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.